chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour, ici Stacy Corriveau, conseillère cadre clinicienne à la Direction des soins infirmiers et aujourd'hui, je suis avec
Julie Blanchette, conseillère en soins infirmiers, aussi à la Direction des soins infirmiers. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Stacy?
Aujourd'hui, cet épisode, Julie, se veut une introduction à l'éthique clinique et à l'advocacy, mais surtout comment intégrer ces compétences infirmières dans notre pratique au quotidien. Pour nous en parler, nous avons un invité de marque. Nous recevons professeur Chantal Doré, professeur associé à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, professeur Doré. Merci d'être avec nous.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre parcours?
Oui, bon, moi, je suis sociologue et j'ai fait mon doctorat sur la procréation médicalement assistée. Donc, tous les enjeux éthiques autour de ça m'intéressaient. Alors, par la suite, j'ai travaillé à plusieurs endroits, mais j'ai fait ma carrière principalement à l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à l'École des sciences infirmières, comme professeur.
Parfait. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on prenne un peu le temps de définir certains concepts qu'on va voir aujourd'hui.
Oui, parce que j'ai l'impression que c'est des thèmes qui peuvent être peu concrets pour certaines personnes ou qui peuvent se ressembler. Professeur Doré, est-ce que vous pouvez nous dire exactement c'est quoi l'éthique?
Écoutez, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de voies où on peut considérer l'éthique. Là. Il y a plusieurs définitions quand même. Mais de mon point de vue, je vais vous lire une très courte définition, mais je vais la commenter. Alors, l'éthique est l'art d'agir d'une façon telle qu'on puisse accompagner les autres à advenir à eux-mêmes. Donc, c'est une action, hein? On est en action en éthique, on est dans dialogue et c'est un accompagnement, ça c'est pour moi c'est central, on accompagne des personnes dans leur réflexion par rapport à leur vie, par rapport aux décisions qu'ils ont à prendre, pour les aider à ce qu'ils soient assez à l'aise pour prendre les décisions qu'ils veulent prendre, quelles qu'elles soient, et qu'on les accompagne là-dedans. Donc, il y a vraiment un dialogue fondamental entre la personne soignée, la personne soignante. Et je dirais qu'il y a un troisième personnage, je n'irai pas plus loin, on pourra le faire plus après, mais il y a la société, parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a une culture, parce que le politique aussi, on le voit dans le système de santé, est très présent. Donc, toutes ces questions-là, tous ces éléments-là, ces personnages-là, finalement, ils sont là dans une réflexion éthique.
Et quand vous parlez de l'art d'agir et de la société, tout ça, du politique, ça me fait penser à, quand j'ai fait mes études, on parlait du savoir émancipatoire ou du savoir socio-politique de l'infirmière. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que c'est la même chose?
Ah oui, c'est certain qu'il y a un lien entre les deux. En fait, c'est la continuité de l'engagement professionnel des infirmières comme soignantes, mais également comme actrices dans le système de santé. Et qui a des positions à défendre, à prendre, toujours en lien avec... on parle beaucoup des conditions de travail, mais les conditions de travail, c'est les conditions de soins aussi. Alors, ça fait partie du bagage infirmier, bien évidemment. Là.
Bien, en fait, on parle beaucoup aussi de la notion d'advocacy. Donc, l'infirmière qui a un devoir d'advocacy. Mais c'est quoi ça veut dire exactement, ça?
Tout à fait. Bien, ça fait partie... Ça fait partie de l'engagement professionnel, c'est-à-dire on doit développer un plaidoyer en faveur, parce qu'on connaît bien nos patients, en faveur avec ses désirs, avec ses souhaits. Alors, on doit défendre ça par rapport à, par exemple, des soins de santé, par rapport à ce qu'ils considèrent comme important dans leur perspective à eux. Dans leur cheminement aussi comme personne. Alors, on a à les accompagner, bien sûr, du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue psychologique, du point de vue éthique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent faire une réflexion sur les enjeux qui entourent leur santé et faire des choix qui vont leur convenir.
Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec un sujet qu'on a discuté ou qu'on va discuter bientôt là, dans le balado, dans un autre épisode, concernant la pertinence des soins. Parce qu'au cœur de la pertinence des soins, la notion de devoir offrir des choix aux patients, de devoir considérer justement c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses priorités à lui, s'assurer qu'il y a une bonne compréhension de la situation aussi, bien, ça s'inscrit dans cette notion de pertinence-là. Puis je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la notion d'advocatie.
Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bien sûr que les gens doivent être le mieux informés possible. Et pour ça, on doit aussi, comme infirmière, je ne suis pas infirmière, mais on doit aussi, comme infirmière, explorer le sens qu'ils donnent à leur vie, à leur santé, à leurs besoins, à leurs désirs, et être capable d'y répondre du point de vue de la santé, du point de vue éthique aussi. Donc, de respecter leurs souhaits, leurs choix.
Et là, je nous entends discuter et je ne peux pas m'empêcher, moi non plus, de me poser une question. On parle d'advocatie ici, on parle du devoir de défendre, on parle, bon, de la compétence éthique. Fait que finalement, est-ce que l'éthique clinique, c'est une compétence de l'infirmière? Est-ce que c'est une théorie, l'advocatie? Est-ce que c'est un devoir inhérent à la profession infirmière? C'est quoi exactement? Dans quelle boîte, si on peut se permettre de mettre ça dans une boîte, dans quelle boîte ça s'inscrit?
Bien, je pense que c'est un devoir, l'advocatie. Ça fait partie de l'engagement professionnel. Et je pense aussi que c'est une compétence qu'on a à développer et on la développe dans le dialogue avec les personnes concernées, les personnes soignées, puis avec l'équipe soignante, hein, parce qu'on fait partie d'une équipe soignante la plupart du temps. Donc, on doit développer ça, ces compétences-là, dans un mode de bienveillance et de dialogue. Ça ne nous quitte pas, le dialogue. C'est comme ça qu'on avance dans notre réflexion. C'est comme ça qu'on arrive à régler des problèmes. C'est comme ça qu'on trouve des compromis. Donc, bien sûr que ça fait partie, parmi les compétences, il y a des compétences cliniques, mais il y a les compétences aussi de relations d'aide et d'accompagnement.
En fait, au sein du code de déontologie des infirmiers et infirmières, même infirmiers et infirmières auxiliaires aussi, toute la notion qui entoure la valeur d'humanisme, même si ce n'est pas écrit textuellement, se faire un devoir d'advocatie purement, ou ça reste que ça transcende notre code de déontologie, là.
Notre code de déontologie, mais aussi notre identité professionnelle, j'ai l'impression aussi.
Ah oui, tout à fait. Alors, je pense que pour devenir infirmière, il faut avoir un désir d'aider autrui. Il faut avoir un souci d'autrui qui nous pousse à devenir infirmière ou dans d'autres métiers aussi. Là, c'est pas le seul, mais quand même, pour devenir infirmière, il faut être sur un mode d'empathie et d'accompagnement.
Je pourrais pas mieux dire que ça. Avant de passer au prochain sujet, parce que justement, on a parlé de dialogue, et là, on va en parler de ce fameux dialogue-là qui est au cœur du sujet d'aujourd'hui. On va y aller pour le coup de cœur de la DSI, Julie.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
La DSI tient à souligner une initiative. Dans le cadre du déploiement de l'avis repère éthique, la stigmatisation et la discrimination, des mots qui causent des mots, le comité d'éthique clinique et organisationnelle du CIUS de l'Estrichu ainsi que le service de l'éthique ont offert récemment une conférence fort pertinente. Les préjugés en santé mentale, il faut en parler, présentée par le conférencier et formateur en santé mentale, M. Luc Vigneault. À travers cette conférence, on pouvait y découvrir l'histoire touchante du conférencier, l'usager qui a été le premier père aidant en santé mentale au Canada, celui qui a été traité pour des troubles liés à la dépression, à la schizophrénie et à la toxicomanie. Aujourd'hui, Luc Vigneault n'entend plus de voix. Il fait plutôt résonner la sienne pour contribuer à mettre fin à la stigmatisation envers les personnes vivant avec un trouble de santé mentale. M. Vigneault est également le premier patient partenaire à être chargé de cours dans une université canadienne et conférencier à l'international depuis plus de 30 ans. Si vous désirez visionner la conférence de M. Luc Vigneault, rendez-vous sur l'intranet dans l'espace employé, section éthique. L'enregistrement se trouve sous l'avis repère santé mentale, comment cesser la stigmatisation et la discrimination. Encore une fois, la DSI tient à féliciter ce bon coup.
Lorsqu'on parle de vouloir faire preuve d'éthique clinique, là, il faut nécessairement vivre une situation qui, quelque part, va présenter une problématique d'éthique clinique ou qui va soulever un certain questionnement. À quel genre de situation on pourrait faire allusion
Oui, il y en a plusieurs, mais je pense que une que l'on voit davantage maintenant depuis quelques années, c'est toute la question de l'aide médicale à mourir, des soins autour du mourir. Et je pense que ça amène quand même des questionnements importants, peut-être aussi des malaises, des conflits familiaux parfois. J'assistais récemment, juste pour nommer ça, il y a quand même 2-3 ans, à une discussion autour de la question de l'aide médicale à mourir. Et je me souviens très bien que, pas juste une personne, mais plusieurs ont tenu ce discours-là de dire « Moi, je vais choisir l'aide médicale à mourir parce que je ne veux pas être dépendant de mes enfants. » Et ça m'a comme vraiment étonnée parce que je me suis dit « Mais on est toujours dépendant un jour ou l'autre dans notre vie. » C'est systématique. Une femme qui accouche, on est dans une situation de dépendance et de puissance aussi, mais quand même de dépendance. On a besoin de gens autour de soi. Être malade, avoir une peine d'amour, quel que soit, on est dans une situation de dépendance. On a besoin d'être avec des gens et de parler. Et donc, dans ce cas-ci, c'est d'avoir des liens avec des gens de notre famille. Pourquoi la dépendance serait quelque chose de négatif alors que c'est souvent l'occasion de création d'un lien social, d'un lien avec quelqu'un d'autre et d'approfondir notre lien aux autres aussi. Alors, je le vois donc en me disant, bon, comment on arrive à penser que, parce qu'il y a des critères précis là, pour l'aide médicale à mourir, on ne peut pas décider comme ça, là, que ça ne peut pas être un critère d'être dépendant. Alors, il y a des critères précis et il faut les respecter. Donc, cette raison-là qui est de ne pas être dépendant, ça m'apparaît être, pas une possibilité, quoi. C'est pas une possibilité de choisir ça. Alors, mais ça montre, par exemple, que la dépendance, on voit ça de façon très négative, mais à tout moment dans notre vie, on peut l'être. Et on va l'être. Alors, ça m'a fait réfléchir et je trouve que ça amène un malaise éthique, là, qui est de dire on est un peu à côté de ce que ça devrait être dans ces critères-là. Alors, ça pose une question de dire comment on se représente les gens qui ont besoin de soins, comme des êtres dépendants et qu'il faut absolument... c'est sûr qu'il faut absolument qu'il y ait des soins et qu'on soit là, mais la dépendance, pour moi, ce n'est pas nécessairement dans ce contexte-là négatif, c'est prendre conscience de notre lien avec les autres nécessaire, d'un lien nécessaire. Là.
Donc, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est quand on se retrouve face à une problématique d'éthique clinique, comme dans l'exemple que vous nous avez cité, c'est on ressent un malaise. Donc, ça serait, si je comprends bien, le premier signe.
Oui.
Et l'autre signe, ça pourrait être, bien, on est un peu dans ce qui est hors du cadre, hors de ce qui devrait être normalement, mm-hmm. de ce que je suis habituée de voir, moi, dans mon milieu clinique. Autre un petit peu mon savoir expérientiel, donc mon expérience de travail m'indique que dans cette situation-là, ce que je fais d'habitude, bien là, ça ne fonctionnera
pas. Tout à fait. Et ça, c'est la petite voix intérieure. Hein? C'est-à-dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Parfois, il y a des conflits familiaux. Comment on est capable de gérer ça et d'amener les gens au dialogue et à nommer les choses le mieux possible et d'accompagner ces gens-là dans cette démarche-là.
Oui, puis j'ai cru comprendre qu'on parlait là, d'éthique d'accompagnement.
Oui.
Qu'est-ce qu'on veut dire par l'éthique d'accompagnement?
C'est une éthique qui ne vise pas à trouver des solutions qu'on proposerait, mais qui propose plutôt d'accompagner les personnes dans leur réflexion et d'être toujours en dialogue. Alors, je parle il y a un volume là, qui est l'éthique de l'accompagnement de Jacques Quintin, qui est un professeur aussi à la faculté de médecine et qui c'est une approche existentielle hein, qui est fondée sur la narration des personnes, c'est-à-dire ce que les gens racontent. Il faut le prendre comme une démarche là, une démarche de soi, d'explication de soi, de ses désirs et accompagner la personne pour s'assurer que les choix qu'elle fait, elle est à l'aise avec ça, qu'elle est capable de faire ces choix-là et de vivre avec, et qu'on est capable aussi par moment de dire, mais il faut penser aussi à tel argument, tel risque. Ou des liens qu'on veut construire avec les gens, comment on peut faire ça tout en prenant des décisions qui nous concernent, nous, et que notre famille, par exemple, dans certains cas, il y a des désaccords dans la famille. Donc, comment on peut arriver à rejoindre ces personnes-là et à s'assurer qu'ils respectent le désir de la personne soignée.
Parce que si je me souviens bien aussi, dans mes cours d'éthique à l'université, on parlait beaucoup de la notion là, de la balance des valeurs, là, si je peux dire, là, de toujours... Tu sais, là, on parle beaucoup de la notion d'accompagnement, de la réflexion, tout ça, mais ça l'insinue de devoir tenir compte de nos propres valeurs, mais aussi des valeurs de l'autre, si je me souviens bien, là.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et dans ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'arriver à, dans une... Parce que dans la démarche éthique, dans celle que je pense, celle dans laquelle je me suis le plus investie, là, donc l'éthique de l'accompagnement, il y a une partie réflexion. Et cette partie-là, elle concerne les valeurs, elle concerne les enjeux, elle concerne les faits cliniques, les faits organisationnels. Est-ce qu'on a accès à ces types de soins, à certains types de soins? Donc, il y a une réflexion qui se fait qui est plus à l'aide des faits, en quelque sorte. Il y a une autre dimension qui est celle de délibérer sur cette question-là, sur les enjeux. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que l'on peut, que l'on veut davantage promouvoir? L'accompagnement de bienveillance dans la prise de décision. Donc, dans la délibération, là, on ouvre là, complètement la délibération sur l'ouverture, sur les personnes et sur leurs besoins. Et dans une troisième phase, on va parler de prise de décision. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on doit s'assurer que cette prise de décision-là, on l'a bien discutée avant, on a bien discuté de diverses options. Évidemment, on a nos valeurs, mais eux autres aussi ont leurs valeurs et on doit plutôt faire en sorte de créer de l'ouverture sur ces différentes valeurs-là et faire voir des choses différentes, mais tout en laissant la prise de décision de la personne la prendre elle-même.
Mais ça me fait réfléchir, professeur Doré, parce que bon, je vais voler un punch. Le professeur Doré m'a enseigné là, à l'université. Et moi, ce qui m'avait marqué et que je retiens du cours d'éthique clinique là, qu'on a eu ensemble, c'était l'espèce de boîte de carré. Puis que des fois, c'est correct de sortir de ce carré-là, de cette boîte-là, parce que souvent, la solution, c'est là qu'elle se trouve. Et quelque chose que je répète souvent là, dans le cadre de mon travail, c'est qu'on est tellement habitué d'avoir un carré qu'on ne réfléchit plus. Puis quand on met trop un carré, quand on met trop de normes, ben on n'est plus dans l'humain nécessairement. Puis on n'est plus, comment je pourrais dire ça, créatif dans notre recherche de solutions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien écouté dans votre cours?
Oui. Oui, tout à fait, oui. Il faut sortir de la boîte, hein? Il faut avoir des capacités d'innovation, de penser autrement. Je pense à une histoire à un moment donné qui m'avait vraiment marqué au tout début de ma carrière. Il y avait un exemple d'une personne, d'un personne âgée qui était vraiment, qui avait de la difficulté maintenant à pouvoir habiter seul et à prendre soin de lui-même. Et il avait un chien. Et sa famille, mais aussi le personnel soignant, poussait beaucoup pour qu'il puisse partir dans une résidence personne âgée. Il lui disait « jamais sans mon chien ». Alors, ça bloquait complètement les possibilités là, pour lui. Mais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a trouvé une résidence où il acceptait les chiens, en prenant une personne âgée comme ça, une résidence pour personnes retraitées. Bien, ça l'a complètement ouvert le champ. Et alors, on a vraiment tenu compte du fait que son chien, c'était son compagnon, hein, toute son affection allait aussi vers cet animal-là.
Puis votre histoire me fait tellement penser à l'histoire qu'il y a dans le rapport du protecteur du citoyen 2023-2024 avec l'homme et son chat et les services du CLSC. Le CLSC qui disait que c'était pas dans leur service que de nettoyer la litière du chat, finalement. Et le monsieur, sa principale préoccupation dans sa vie, là, c'était que son chat aille bien et son chat soit bien traité. Et finalement, il a été reconnu, il a été retenu le fait que oui, il fallait lui offrir ce service de nettoyage de litière-là.
Ah oui, tout à fait. Ça, je suis vraiment... Ah oui, tout à fait. Puis on le voit aussi quand on travaille, par exemple, avec des... Je donne un exemple avec des personnes itinérantes. Si elles ont un animal avec elles, si on veut avoir un bon lien avec cette personne-là, il faut prendre soin de l'animal. Il faut vraiment montrer qu'on respecte ce lien-là qu'il a avec son animal, là.
Puis même dans un contexte hospitalier, moi, je me souviens, à mes tout débuts, j'étais externe en soins infirmiers. Je travaillais sur une unité de médecine-chirurgie et il y avait une usagère que je passais mon temps à la chercher pour lui donner ses soins jusqu'à temps que je me rende compte qu'elle était dehors et qu'elle fumait. Puis j'étais en soins palliatifs à ce moment-là. Je faisais mon externe en soins palliatifs. Et pour moi, c'était tellement illogique de ben là, je ne peux pas aller donner des soins à l'extérieur. Je ne peux pas aller donner des soins à l'extérieur. Je n'irai pas prendre des glycémies à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Et là, il y avait l'infirmière clinicienne avec qui je travaillais à l'époque qui m'a dit oui, mais. Stacy, c'est tout ce qui lui reste à cette dame-là. C'est sa façon de prendre soin d'elle, c'est d'aller sociabiliser, d'aller. Elle est en fin de vie, elle va décéder.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, bien, on s'était assis tous ensemble, l'équipe, on avait discuté et on avait convenu que certains soins, effectivement, à telle heure, elle devait être à la chambre parce qu'on ne peut pas aller les donner dehors. Mais certains soins, oui, on irait la rejoindre dehors pour lui donner. Donc, ça, c'était de sortir de la boîte. Puis, tu sais, on a fait un peu comme vous nous disiez, on a eu un temps de réflexion. OK, c'est quoi notre cadre ici au CIUS? C'est quoi nos normes? C'est quoi nos politiques internes? C'est quoi nos valeurs? Et ensuite de ça, la délibération, bien là, on a échangé avec la personne usagère, avec le médecin, entre équipes. Et là, après ça, c'est quoi qu'on fait? Tu sais, on prend une décision, j'imagine, après ça, là.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et on a pris une décision après une bonne réflexion et après une bonne délibération. Je pense que ça assure que la décision soit réalisée, qu'on puisse répondre à ces besoins-là. C'est pas toujours possible, hein? On s'entend, là, on peut pas réaliser tous les souhaits, mais je pense qu'on doit quand même avoir cette perspective-là dans un mode de bienveillance. Quand c'est soi, on voudrait bien que les gens nous écoutent et nous appuient un peu ou nous accompagnent dans nos difficultés, mais aussi dans notre souhait de se réaliser ou de s'accomplir, là.
Professeur Doré, là, on a parlé, bon, du dialogue, on a parlé de l'éthique d'accompagnement qui se fait en trois temps. On a parlé de nous en tant que soignantes, on a parlé de la personne soignée, mais au début de l'épisode, vous nous avez parlé aussi de la sphère politique. Mmh. Voulez-vous nous en parler davantage?
Oui, c'est un peu le troisième personnage dont je parlais, qui est toujours là, hein, quand il y a des rapports, quand il y a des discussions éthiques. Je me réfère souvent à Paul Ricoeur qui dit « la visée éthique, la visée, ce qu'on devrait atteindre, c'est la visée de la vie bonne, je vais revenir avec ça, la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. » Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « ah, wow, là, ça c'est vraiment très significatif. » La vie bonne, c'est pas une bonne vie, c'est une vie où on se réalise, où on s'accomplit. Ça, c'est la vie bonne, selon Ricoeur. Avec et pour autrui. Donc, quand on est dans un rapport avec d'autres personnes, on travaille avec eux autres et pour eux autres aussi. Donc, on est dans un lien social auquel on tient dans la visée éthique et aussi dans des institutions justes. Et ça prend tout son sens dans notre société, pas juste la nôtre, mais dans les sociétés en général où les institutions sont des organisations, je dirais, qui sont là pour faire en sorte que il y ait le plus possible d'équité, d'égalité, de justice, en fait. Dans des institutions justes, c'est ça. Donc, la justice, c'est une institution. La santé, c'est une institution. Pour avoir les services auxquels on est en droit de s'attendre, on pourrait nommer... toutes sortes de... Le gouvernement, c'est aussi une institution et on s'attend à ce qu'ils prennent des décisions qui soient en accord avec les besoins de la population. Alors ça amène toute la question de l'implication de la société et de la culture dans nos décisions et y compris dans l'accompagnement éthique que l'on fait avec des personnes. Alors... actuellement, on voit que c'est un enjeu, les institutions justes. On voit que, et un peu partout, là, pas juste ici, mais on voit bien qu'on a de la difficulté à arrimer les services de façon, équitable aux gens qui en ont besoin. Je pense que c'est une question éthique importante et c'est une question sociale aussi importante dont on devrait pouvoir discuter. C'est une question sociale et politique, finalement. c'est la question des ressources. Hein? Quel type de ressources on a, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça demande toute une délibération autour des valeurs et de mettre de l'avant vraiment des actions qui vont respecter ces valeurs-là. Évidemment, il y a toute une question de « on ne peut pas tout faire ». Alors, il y a toute une question de toujours tenir compte dans une discussion avec une autre personne, une personne qui reçoit nos soins. Il y a toute la question de la sagesse pratique, c'est-à-dire d'être capable de mettre de l'avant, de tenir compte de la singularité de la situation de chaque personne. Alors, chaque personne vit des événements et elle les vit avec ce qu'elle est. Alors, on a vraiment une approche expérientielle en ce sens-là. On doit vraiment tenir compte de ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Ah oui, moi, je bois vos paroles.
Puis, c'est super pertinent dans la mesure où dans l'épisode précédent, on parlait beaucoup de la notion du cas unique. Comme quoi que comme infirmière, justement, on se doit d'avoir cette compétence-là, de reconnaître toute la singularité, mais à la fois la complexité et l'instabilité que représente chaque personne qui est devant nous. Fait que je trouve ça super pertinent, super intéressant. Puis ça me fait penser aussi beaucoup... Quand vous disiez, là où on a du contrôle, là où on peut agir, on fait beaucoup, nous, référence à l'image des cercles de Covey, où on retrouve donc la sphère de contrôle, la sphère de...
Ce que je contrôle, ce que j'ai de l'influence
les préoccupations,
je contrôle pas,
exactement.
Ça. En effet, Julie, et ça me fait aussi faire un parallèle avec la praxis infirmière émancipatoire. Là, je ne vous ferai pas un cours de théorie à large spectre ou à spectre modéré, c'est pas le but. Mais en fait, c'est une théorie qui nous explique comment l'infirmière, jeune infirmière, va évoluer, va se transformer pour avoir un impact éthique et faire de son milieu, de la société, une société plus éthique, mais ça passe aussi par des petits gestes au quotidien dans les premières étapes. Donc, ce que j'aimerais savoir, professeur Doré, comment on fait en tant que professionnel en soins infirmiers au quotidien pour poser ces petits gestes-là et un jour vouloir atteindre cette société juste-là dont vous nous parlez?
Mais ça me fait penser un peu à un exemple que je donnais parfois dans les soins aux patients, juste pour illustrer, parfois je me retrouve au magasin et je viens pour payer, mais la caissière est en train de parler de sa fin de semaine avec l'autre caissière. Et donc, j'ai vraiment l'impression de ne pas être un sujet, mais plutôt un objet qui est en attente d'un regard pour être capable de... Alors, je pense que dans ces... C'est toujours ce rapport-là à l'autre qui est si central. Quand on regarde, là, par exemple, dans les... je vais m'éloigner peut-être un peu, là, mais je vais essayer de ne pas aller trop loin. Dans les articles, dans les lettres aux lecteurs, quand des gens remercient pour des bons soins, ce qu'ils remercient, ce n'est pas « merci d'avoir fait tel soin, merci d'avoir... » Non, c'est « merci pour la qualité de la relation, pour votre bienveillance, pour votre souci de confort, du confort, etc. » Alors, tout ça, c'est comme, il y a comme là un rapport à l'autre qui est très, très éthique dans le sens où on est en mode bienveillance et qu'on veut vraiment faire en sorte que la personne soit bien. On est dans une société où on est pressé. Hein? Tout doit aller vite et ça, c'est là aussi. Donc, il ne s'agit pas de passer une demi-heure de temps avec quelqu'un pour lui demander... de nous parler de quelque chose où il est content, où il se sent bien. Mais c'est plus dans un dialogue de respect, de montrer qu'on a une attention envers l'autre et que c'est important parce que, dans le fond, les gens sont malades, ils ne sont pas bien. Hein? Fait que quand tu peux nommer ce qui ne va pas bien, être entendu et qu'on puisse apporter des... comment dire, une... En tout cas, consoler hein, aussi, pourquoi pas. Ce qu'on voit aussi, je pense comme ça, là, j'y vais peut-être un peu... je pense aux conflits familiaux qui sont très lourds à porter sur des décisions à prendre par les personnes soignées. S'il y a un conflit entre sœurs et frères ou entre... C'est vraiment un accompagnement, ça aussi, qui fait partie de l'éthique pour s'assurer que que tout le monde est sur la même longueur d'onde, qu'on se comprend que par rapport à tel soin ou par rapport à tel autre, c'est pas la même chose. Et qu'on puisse les accompagner pour pas qu'ils vivent dans le désarroi et qu'ils se sentent qu'ils se sentent mal, tout simplement parce que ils n'arrivent pas à conclure, à se rapprocher ou à conclure un accord, je dirais, ou avec toutes les personnes qui les entourent. C'est quelque chose qui est très prenant, ça, pour les personnes de vivre ces conflits-là. Alors, je pense qu'il y a des... Il y a comme ça un accompagnement qui peut être fait sans qu'on parle nécessairement d'une éthique, mais qui est d'un accompagnement de clarifier des choses et d'aller... de faire en sorte que les gens puissent se sentir mieux dans ces relations-là.
J'avais écouté une conférence l'année passée, là, et c'est exactement ce que la conférencière disait. Les gens ne se souviennent pas de la vitesse à laquelle vous avez fait votre prise de sang, mais ils vont se souvenir de la main que vous avez tenue, par contre.
Absolument.
Donc, nos soins, tantôt Julie, tu nous as parlé de notre cadre, de notre société qui évolue, qu'on est en grand changement. Bien, le but, c'est pas nécessairement d'embarquer dans le train au plus vite, mais c'est de prendre le temps, puis peut-être pas faire plus, mais faire différemment avec et pour l'usager.
Mm-hmm. Et c'est pas long, hein? C'est-à-dire, on n'a pas à passer une heure de temps là, avec la personne, là. Mais juste de dire, comment allez-vous aujourd'hui? Et hier, vous m'avez parlé telle chose, maintenant, est-ce que c'est mieux? C'est vraiment être près de la personne. Là.
L'attitude. Tout est dans l'attitude aussi. Le sourire franc, un regard franc, un toucher aussi sincère, sans nécessairement aller trop loin, bien sûr, en respectant aussi les limites de l'autre. Mais je crois que c'est vrai qu'on est dans un milieu, on ne se le cachera pas, où tout va vite. Où on a l'impression souvent qu'il faut que ça roule, il faut que ça bouge. Hein? Il faut que... Mais lorsqu'on réussit quand même à faire ressentir quelques secondes à un usager, qui est important pour nous malgré toute la pression qu'on peut avoir, je crois que ça va faire toute la différence dans son séjour.
On a parlé que, bon, on est en constante évolution, ça va vite, on a, bon, une charge de travail là, qui ne va pas en diminuant. Vous avez parlé en début d'épisode aussi de le premier signe, c'est un malaise. Quand on est face à une situation éthique, c'est qu'on vit un certain malaise. Est-ce qu'il y a un danger, à force justement de vouloir aller vite, d'être dans sa routine de soins, d'être moins sensible à ces malaises-là?
Oui, je pense que oui. Surtout avec les exigences qu'on voit dans le système de santé auxquelles parfois on a de la difficulté à répondre et qu'on veut répondre, mais qu'on arrive difficilement à faire pour les conditions de travail, tout ça. Je pense qu'il y a une autosurveillance en quelque sorte, à se dire moi je suis ici pour soigner les personnes, pour travailler dans un contexte de santé, tout ça. Alors être sensible à voir passer le train là, quand tu as un problème, de le voir là, ça veut dire qu'il faut cultiver sa sensibilité éthique, toujours la conserver en se disant, est-ce que tout va bien là, est-ce que je suis à l'aise là, ouais. OK, ça va. Oh, il me semble que ça pourrait être différent. Ça pourrait être... on pourrait, il me semble, faire quelque chose de différent. Et parfois, on voit ça dans des... Quand il y a des conflits aussi, il peut y avoir des conflits entre soignants. Parfois, il y a des soignants qui sont plus... qui peuvent être, je ne sais pas, pour une raison où ils sont fatigués. Ça m'étonnerait
plus irritable.
Pas. Oui, oui, tout à fait. Et donc, d'être capable de le voir et de pouvoir se dire, ben faut faire attention à ça, faut y penser, il faut pouvoir interagir là-dessus, échanger et faire en sorte qu'on dégonfle le problème en quelque sorte.
D'ailleurs, dans cette saison-ci, pour le balado, il va y avoir un épisode consacré entièrement à la fatigue de compassion. Donc, j'invite les auditeurs et auditrices à aller écouter cet épisode-là. Et autre chose aussi, c'est qu'avec le sujet dont on vient tout juste de discuter, programme d'aide aux employés aussi. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit parallèle, là, un petit clin d'œil.
Bien, avant de dire au revoir à notre invité, pendant qu'on est justement sur les références, je rappelle à tout le monde qui nous écoute que si jamais vous êtes face à une situation où il y a malaise éthique, où il y a problématique d'éthique clinique, le CIUSSS de l'Estrichu offre un programme d'accompagnement éthique avec le comité d'éthique clinique et organisationnel. Donc, si vous voulez faire une demande d'accompagnement, vous pouvez aller sur l'intranet et faire une demande à cet endroit.
C'est dans l'onglet CIUSSS de l'Estrichu. Dans les comités, vous allez retrouver le comité d'éthique clinique et organisationnel.
Soins sécuritaires,
réontologie,
L3S,
acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme infirmière auxiliaire, de procéder aux soins de trachéostomie? De façon générale, la réponse est oui. Pour les soins d'hygiène et d'entretien du matériel ou de la peau au pourtour du stomat, ces activités sont effectuées sans restriction, si ce n'est que de détenir les connaissances et habiletés suffisantes pour l'exécution. Pour le soin d'instillation trachéobronchique, cette activité est permise dans la mesure où l'infirmière auxiliaire doit, en plus de posséder les connaissances et les compétences requises, être en mesure d'identifier si l'instillation est réellement propice aux soins en considérant la condition de l'usager. De plus, elle doit en tout temps vérifier l'ordonnance ou le PTI avant de dispenser le soin, appliquer le soin qui relève de sa compétence, observer l'efficacité du soin et décrire de manière organisée la condition de la personne avant, pendant et après le soin dans sa note d'évolution. De même, par sa contribution à l'évaluation, elle rapporte à l'infirmière les données et les constats de ses observations selon la situation. Une nuance importante concerne toutefois les usagers nécessitant des soins trachéo lorsqu'ils sont sous ventilateur. L'infirmière auxiliaire doit obligatoirement détenir une attestation spécifique à cet effet délivrée par l'OIIAQ et répondre aux conditions décrites dans le règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire. Notamment, on y retrouve les milieux où cette activité est autorisée aux infirmières auxiliaires, de même que certaines conditions, comme le fait qu'une infirmière doit être disponible dans le bâtiment en vue d'une intervention rapide auprès du patient et que ce dernier ne doit pas être dans une phase critique ou aiguë.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Intersectionnalité. L'intersectionnalité est un concept sociologique et une approche analytique qui examine comment les différents systèmes de discrimination ou de privilèges se croisent et interagissent. Introduite par Kimberlé Crenshaw dans les années 1980, cette femme juriste afro-américaine apporte l'idée que l'intersectionnalité nous aide à prendre conscience que la discrimination est souvent composée de plusieurs facteurs conjugués. Cette dernière met en lumière la manière dont les identités multiples telles que l'origine ethnique, le genre, la classe sociale, la sexualité et d'autres caractéristiques sociales interagissent pour créer des dynamiques uniques d'oppression ou de privilège. Par exemple, une femme noire, homosexuelle, peut faire face à des discriminations qui ne peuvent pas être comprises uniquement à travers le prisme du sexisme, du racisme ou de l'orientation sexuelle, mais bien de leur intersection. Prendre conscience que ses propres privilèges peuvent parfois être la première étape afin de mieux comprendre le concept d'intersectionnalité. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du CIUSSS de l'Estrichu.
Donc, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur l'éthique clinique et l'advocacy. Merci beaucoup, professeur Doris. Ce fut un réel plaisir.
Et ça fait un plaisir pour moi aussi, vraiment, et de te revoir dans ce contexte-là. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, merci à vous de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup.
De quoi qu'on parle dans le prochain épisode, Julie?
Ça va être intéressant. Je trouve que ça fait vraiment un beau lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, dans le prochain épisode, il sera question de l'usager au cœur de nos soins. Et nous allons avoir la chance donc, de recevoir Cynthia Remakers, mais aussi nous allons avoir le témoignage de M. Carpentier, qui est un usager partenaire important au CIUSSS de l'Estrichu.
Donc, c'est ce qui conclut ce balado de la Direction des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope. À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.